La violence des riches décryptée par des sociologues.
Chercheur au CNRS, aujourd'hui retraité, Michel Pinson et son épouse Monique Pinson-Charlot ont travaillé et publié de nombreux ouvrages décrivant notre société. La majeure partie de ces travaux a concerné les grandes familles et leurs fortunes, la haute bourgeoisie ou encore les élites sociales. Fort de plus de 30 années d'enquête et d'observation, leur constat est sans appel. La classe dominante actuelle n'a rien à envier aux seigneurs du Moyen-Âge, loin s'en faut. À l'heure où les inégalités se creusent, où l'actionnariat plombe l'idée même d'entreprise et où les profits sont énormes, les peuples n'en profitent pas. Et côté environnement, la planète sombre dangereusement. L'heure est grave, dénonce le couple qui poursuit un but militant et s'apprête à publier son 27e ouvrage. Invités par l'Assemblée citoyenne Manoskine, les Pinson ont participé à un débat passionnant à l'heure même où des gilets jaunes criaient leur ras-le-bol des taxes dans tout le pays et démarraient leur mouvement. Les sociologues évoquent leur démarche comme l'actualité et également la pièce de théâtre que des comédiens ont adaptée d'après leurs travaux. Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, pourquoi avez-vous choisi ce segment particulier des riches dans vos études ?
Ben pour la bonne raison que les chercheurs au CNRS, qui étaient environ 1000 en 1986, quand nous avons pris la décision de consacrer nos recherches à ceux qui s'accaparent toutes les richesses et tous les pouvoirs, le nombre de sociologues travaillant sur ce milieu se réduisait au doigt d'une seule main, alors que nous étions 1000. Autrement dit, la recherche, l'enseignement supérieur, favorise les recherches sur les dominés, ce qui est très bien, c'est là où il y a le plus de problèmes, mais sans jamais s'interroger sur les causes des inégalités, sur les causes de la souffrance des plus démunis, sur tout simplement l'antagonisme dans les rapports de classe.
Vous avez travaillé pendant 30 ans sur ces segments particuliers en produisant plus de 20 livres, plus de 20 ouvrages, avec également des reportages et puis beaucoup, beaucoup d'informations. Qu'est-ce que vous retenez de toute cette activité professionnelle ?
Que la classe dominante est un tissu de familles, d'individus, où il y a un niveau d'interconnaissance très élevé qui constitue, on pourrait dire, une sorte de secte qui a des signes de reconnaissance, qui a des règles, qui a des traditions. C'est un milieu qui a des contradictions internes, des concurrences, mais qui a d'abord et avant tout une énorme convergence des intérêts, et donc des intérêts, ça veut dire qu'ils sont solidaires malgré justement cette concurrence.
En 30 ans d'exercice, et puis maintenant vous êtes retraités tous les deux, vous avez vu la situation et les inégalités se creuser ?
Ah ben, ce qu'il y a d'extraordinaire dans notre expérience, c'est que nous, donc, on a vieilli de 30 ans. Et donc on a changé, on est devenu de moins en moins timide, de plus en plus assumé dans la façon dont on a pu construire ces recherches sur les dominants. Mais alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que parallèlement, l'objet de notre recherche, c'est une révolution à laquelle nous avons assisté, c'est-à-dire que d'un capitalisme paternaliste, on est passé à un capitalisme néolibéral avec sa financiarisation et sa mondialisation avec l'écroulement du mur de Berlin en 1989. Et les gens qui étaient avec nous adorables, beaux, courtois et tout ça, se sont révélés des requins de la finance.
Aujourd'hui même, d'ailleurs ici à Manosque et dans tout le pays, il y a le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement où on pourrait dire beaucoup de choses. En fait, c'est le peuple qui râle contre les taxes. On n'est pas très loin du Moyen-Âge et de la gabelle.
Il y a un peu de cela, effectivement. Il y a un prélèvement fiscal qui s'insinue un peu par des canaux marginaux, mais finalement, la pression fiscale augmente. Et augmente alors que, par ailleurs, nous avons travaillé sur l'évasion fiscale. La grande bourgeoisie est pratique dans son ensemble des évasions fiscales qui sont, pour les ressources de l'État, une catastrophe.
On l'a bien vu avec l'une des premières décisions d'Emmanuel Macron de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune. Il ne faut pas oublier ce terme solidarité. Et puis les APL aussi qui ont été réduits de manière assez drastique pour les plus fragiles de notre société. Qu'est-ce que vous pouvez avancer comme solution, Monique ?
D'abord, je voudrais dire aux Gilets jaunes que c'est très bien d'organiser cette révolte à partir de cette hausse des taxes sur les carburants. mais qu'ils vont peut-être gagner cette bataille avec des primes et des promesses, mais qu'ils perdront la guerre. C'est-à-dire que c'est un petit point dans l'intensité de la violence de la classe dont Emmanuel Macron est aujourd'hui l'homme au service de ses intérêts. Et qu'il faut penser que toutes les routes nationales de France vont être privatisées. Il ne faut pas oublier que cette taxe sur les carburants, elle n'est pas payée par les entreprises de transport routier, par les compagnies aériennes, par la grande distribution, par les multinationales pétrolières comme Total. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux poids, deux mesures. Il y a eu des dizaines de milliards d'euros donnés aux plus riches dès l'arrivée d'Emmanuel Macron. Et puis, c'est nous, avec le carburant, avec les gens qui habitent à Perpète, qui n'ont pas d'autre moyen que d'utiliser leur voiture au diesel qu'on leur a vendue comme étant super bien. Et aujourd'hui, les voilà taxés, alors que les autres ne sont pas taxés d'un point de vue fiscal à la hauteur de leur fortune. Donc il y a une fiscalité à deux vitesses et ils ont bien raison d'être en colère, mais qu'ils n'oublient pas d'élargir leur horizon. Il ne s'agit pas de gagner une bataille, il s'agit de gagner une guerre de classe.
Vous êtes aujourd'hui à Manosque, vous allez rencontrer les manosquins pour parler justement de ces choses-là, mais en même temps vous allez assister à une représentation théâtrale et vous avez travaillé avec la compagnie qui présentera une œuvre issue de vos réflexions et de votre travail. Comment ça s'est passé ce travail avec des comédiens ?
À vrai dire, nous les avons rencontrés, nous avons parlé avec eux, nous avons parlé de notre travail, mais ils ont eux-mêmes imaginer leur jeu, faire construire des scènes, des discours, enfin des textes qui étaient les leurs. Ils ont pris une grande liberté pour cette œuvre-là, qui est vraiment un travail d'artiste du théâtre, très original, et qui a quelque chose de fort dans la manière de se produire, de s'exposer, en même temps peut-être une certaine difficulté, je ne sais pas ce que Monique pourrait en dire, difficulté de perception par rapport au public. C'est une œuvre qui est très savante et donc un peu ésotérique dans sa forme.
Ah oui, non, je ne suis pas trop d'accord, parce qu'au contraire, le public aime beaucoup, parce qu'il y a ces drôles, il y a des gags, il y a des sketchs, et au final, c'est nous qui sommes quelquefois plutôt un peu frustrés, parce qu'on a tellement travaillé que de ramasser tout ça en une heure, voilà, avec des drôleries, avec des sketchs et tout ça, ça fait, si on n'a pas une culture théâtrale, ce qui est notre cas, ça fait un peu bizarre, mais on est très contents, d'autant que c'est une pièce qui circule beaucoup à travers toute la France, et que du coup, ça met en contact des publics très différents avec les idées que nous défendons, Michel et moi, avec beaucoup d'autres militants. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'original dans notre travail, mais il n'en demeure pas moins qu'on est les seuls à avoir eu accès aux plus grandes familles de la bourgeoisie et de la noblesse fortunée, que nous avons fait un entrisme tout à fait exceptionnel et que nous l'avons fait avec sincérité, c'est-à-dire que nous voulions vraiment donner de la chair et du sang au squelette de la domination, si vous voulez, en quelque sorte. Nous voulions incarner, personnifier, que ce ne soit pas le grand capital et tout ça. Dans une société où le pouvoir devient invisible, lui donner de la visibilité, c'était notre programme.
Une dernière question plus personnelle, si vous me permettez. Vous êtes un couple qu'on pourrait appeler fusionnel. Vous avez travaillé de manière très très pointue pendant plus de 30 ans, l'un avec l'autre. Quelle est la part de l'affectif et du professionnel entre vous deux ?
Je sais pas comment je peux pas séparer. C'est vraiment ça, comme on habite là ensemble, qu'on est marié et femme, ça fait 53 ans qu'on vit ensemble. Du coup, tout se mélange, mais je pense que jamais nous aurions pu faire ce travail si nous n'avions pas été un couple solidaire et uni. Jamais. Pourquoi ? Parce que enquêter, faire de l'entrisme chez les plus puissants, dans les cercles, dans les lieux, dans les beaux quartiers, enfin dans les rallyes, les cercles et tout ça. Sincèrement, il faut être deux parce que sinon c'est trop dur, c'est trop violent. Et puis au CNRS, c'était pas si facile que ça de travailler sur les puissants parce qu'il y a des solidarités tout en haut de la direction du CNRS, avec tous les dominants d'ailleurs, qui font que on peut pas être académiquement reconnu si on travaille sur les dominants. Par contre, si on a toujours la tête baissée sur les plus pauvres, là, votre carrière est assurée.
Michel Pinson, votre avis ?
Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ça fait longtemps que je suis d'accord. Mais on a quelquefois des tensions. C'est un peu plus délicat quand on est marié. Mais après tout, on s'en tire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le fait d'être un couple nous a beaucoup aidé dans la pénétration d'un univers fermé, d'un univers plutôt méfiant, voire hostile vis-à-vis des sciences sociales, de la sociologie en particulier. Quelqu'un comme Bourdieu, ils exècrent le travail de Bourdieu, bien sûr, et nous en inspirons, mais on ne leur disait pas. Mais le fait d'être une famille leur donnait un vernis de respectabilité. Un petit effort de vêtements, d'allure, de la manière de parler, de les interroger, ça nous a beaucoup aidés parce que le sociologue qui arrive avec son magnétophone, qui pose ça sur le bureau et qui fait parler et qui harcèle le... Non, nous avons été un peu hypocrites d'une certaine manière, mais c'était pour la bonne cause. Nous n'avons pas été brutaux dans les entretiens avec eux, mais il nous fallait absolument... Ils étaient méfiants au départ. Et puis, il fallait casser cette méfiance, et on l'a vraiment cassée.
C'est ça, le fait d'être une famille. Comme eux, la reproduction de l'ordre social passe par la famille. Du coup, on était en cohérence. Donc, on était un couple qui était cohérent avec le mode de reproduction des familles, puisqu'il n'y a pas de ruissellement vers les autres classes. Il faut absolument que l'argent reste de génération en génération au sein de la même confrérie des grandes familles. Et donc, du coup, c'était parfait.